Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 25 juillet 2024. La médiation entreprise par les anciens présidents béninois, Nicéphore Soglo et Boni Yayi dans la crise entre le Bénin et le Niger, porte des fruits. Une délégation nigérienne de 10 personnes se trouve au Bénin depuis hier. Au Burkina Faso, l'armée condamne des actes de mutilation de cadavres après des accusations. Dans le centre du Mali, la campagne agricole est menacée par l'insécurité croissante.
C'était difficile de se rendre au champ, mais les choses se sont améliorées ici. Cependant, il y a encore des villages où les cultivateurs ne peuvent pas se rendre dans leurs champs à cause des menaces.
Reportage à suivre dans la partie magazine. En Ouganda, la police a arrêté ce jeudi plusieurs personnes à Kampala, la capitale, au cours d'une deuxième journée de manifestation contre la corruption. Le président Joe Biden reçoit aujourd'hui le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal. Une délégation nigérienne d'une dizaine de personnes est depuis hier au Bénin pour tenter d'aplanir les nombreux litiges entre le Bénin et le Niger. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
À la tête de la délégation nigérienne qui a atterri à Cotonou peu avant 12h mercredi, le général Mohamed Toumba, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et ministre de l'Intérieur du Niger. Elle a été reçue par le chef de l'État béninois, Patrice Talon, qui avait à ses côtés ses deux prédécesseurs, Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi, ainsi que deux ministres. La rencontre fait suite à la mission de médiation entreprise fin juin par les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi. Cette visite de la délégation nigérienne est un signal fort dans les efforts pour décrisper et normaliser les relations entre les deux pays. Depuis le coup d'État à Niamey il y a un an, les contentieux se sont accumulés avec les sanctions de la CEDEAO, la fermeture des frontières, l'arrestation de citoyens nigériens, la rétention de véhicules militaires nigériens. Autant de questions ont été abordées. La délégation nigérienne doit rentrer ce jeudi à Niamey. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'armée condamne des agissements macabres dans des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrant des personnes se présentant comme des soldats ou des auxiliaires de l'armée en train de mutiler des cadavres. Elle a su avoir pris des dispositions pour identifier l'origine des images et les auteurs. Nani Talani.
Depuis quelques jours, des images d'une rare cruauté sont véhiculées sur les réseaux sociaux montrant des personnes supposées appartenir aux forces de défense et de sécurité et au VDP, des supplétifs civils qui se donnent en spectacle en mutilant un corps humain, écrit l'état-major dans un communiqué. Il condamne ces agissements qualifiés de contraires aux règles d'engagement des combattants dans la lutte contre le terrorisme. Il se démarque également de ces pratiques inhumaines de nature à jeter le discrédit sur la lutte des forces combattantes burkinabées engagées sur le front de la reconquête du territoire national. Selon l'état-major, des dispositions sont prises pour identifier de façon formelle l'origine de ces images, leurs auteurs et les personnes qui y figurent. Sur ces vidéos, rien ne permet d'identifier le lieu, la date ou les acteurs dont certains portent des tenues militaires.
Au Nigeria, l'armée avertit qu'elle interviendra afin de prévenir toute violence lors de manifestations prévues le mois prochain. Des mouvements citoyens prévoient en effet de protester contre la mauvaise gestion du pays et les difficultés économiques. En Côte d'Ivoire, des échauffourées ont opposé aujourd'hui, pendant plusieurs heures, les forces de l'ordre et des centaines d'habitants d'un quartier d'Abidjan lors d'une opération de démolition et d'expulsion des centaines d'habitants du quartier populaire Adjamé Village, situé dans le centre d'Abidjan, ont manifesté leur colère par un rassemblement et des jets de pierres lancés en direction des gendarmes et policiers déployés qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène. Au moins un engin de chantier a été incendié par les manifestants. La police ougandaise a arrêté plusieurs personnes à Kampala, la capitale, ce jeudi, au cours d'une deuxième journée de manifestation contre la corruption. Rosine Monizero.
Ces manifestations anticorruption exigent la démission du président du Parlement, Anita Among, selon des images diffusées par les médias locaux et s'inspirent des semaines de manifestations de jeunes au Kenya voisin. Jeudi, d'autres manifestants sont descendus dans la rue avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Les corrompus s'en prennent à la mauvaise génération et c'est ici que ça se passe ». C'est notre 1986, en référence à l'époque où le président Yoweri Museveni a renversé un gouvernement répressif. Les images montrent des policiers en tenue anti-émeute, forçant plusieurs jeunes adultes à monter à l'arrière d'un camion. Museveni, qui a mis en garde les manifestants contre le risque de jouer avec le feu, les a accusés jeudi de recevoir des financements étrangers. La lutte contre la corruption est entre mes mains. Je n'ai besoin que de preuves et des mesures seront prises, a-t-il déclaré. La police a déjà arrêté au moins 73 jeunes manifestants, selon Chapter 4 Uganda, une organisation qui fournit des services juridiques aux personnes détenues.
La police kényane a arrêté ce jeudi plusieurs personnes qui tentaient de présenter une pétition au bureau du président et de déposer des fleurs en l'honneur des personnes tuées il y a un mois lors de la journée la plus violente des manifestations antigouvernementales. Par ailleurs, le président William Ruto a nommé aujourd'hui Douglas Kanja au poste d'inspecteur général de la police pour remplacer le chef de la police qui a démissionné à la suite de critiques sur la conduite des forces de l'ordre lors des manifestations antigouvernementales. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une vingtaine de civils ont été tués cette semaine dans le territoire de Beni, ont indiqué des sources locales qui accusent les ADF affiliés au groupe État islamique. Les victimes étaient en train de cultiver leur champ, a précisé le bourgmestre de la commune d'Ocha, chef-lieu de ce territoire situé dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Amnesty International a appelé aujourd'hui l'ONU à étendre l'embargo sur les armes dans la région du Darfour à l'ensemble du Soudan afin de mettre un terme aux livraisons de munitions et d'armes dans ce pays en proie à une guerre sanglante entre généraux rivaux. L'embargo en place depuis 2004 ne concerne que le Darfour, une vaste région dans l'ouest du Soudan, frontalière du Tchad, déjà meurtrie par une guerre civile dans les années 2000.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden reçoit cet après-midi dans le bureau ovale le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Washington tente de faire davantage de pression dans l'espoir d'arriver à un accord de cessez-le-feu dans la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien. Jacques Aristide.
Le président Biden, qui vient de renoncer à briguer un second mandat, a continué à afficher son fort soutien à Israël depuis le début du conflit en octobre dernier, mais il s'est montré de plus en plus critique au fur et à mesure qu'augmentait le bilan des victimes civiles dans la bande de Gaza. « Je vais continuer à travailler pour mettre fin à la guerre contre Gaza, ramener tous les otages à la maison, apporter la paix et la sécurité au Moyen-Orient », a-t-il déclaré hier soir alors qu'il s'exprimait pour expliquer son retrait de la présidentielle américaine en novembre. Pour Joe Biden, le conflit demeure une priorité absolue. Le chef du gouvernement israélien va également rencontrer la vice-présidente Kamala Harris, désormais présentée comme la très probable candidate démocrate à la Maison-Blanche face au républicain Donald Trump. Elle était absente lors du discours de Benjamin Netanyahou devant le Congrès hier. Madame Harris a fustigé aujourd'hui l'action qualifiée d'abjecte et d'antipatriotique de manifestants ayant brûlé un drapeau américain hier, alors qu'ils protestaient contre la présence du Premier ministre Netanyahou à Washington.
Le nouveau gouvernement britannique a lancé ce jeudi son grand plan sur les énergies vertes avec l'ambition de faire du Royaume-Uni un leader mondial grâce à une nouvelle entreprise publique et un accord avec la famille royale pour alimenter des millions de foyers grâce à l'éolien en mer. À peine trois semaines après son entrée à Downing Street, le premier ministre travailliste Keir Starmer a donné le coup d'envoi de cette promesse majeure de campagne symbolisant une approche interventionniste sur les questions économiques et plus volontariste que le précédent gouvernement conservateur sur les politiques climatiques. Trois navires de la flotte russe de la Baltique sont attendus samedi à Cuba, ont annoncé aujourd'hui les médias d'État. C'est la deuxième fois que les navires de la marine russe font halte dans l'état insulaire des Caraïbes depuis le mois de juin. Les forces armées révolutionnaires cubaines font état dans un communiqué d'une venue de routine, mais c'est la première fois depuis des décennies que Cuba accueille coup sur coup des bâtiments d'un même pays. Et puis le typhon Gaimi a touché terre ce jeudi dans la province chinoise de Fujian après avoir fait 4 morts à Taïwan et partiellement inondé sa deuxième plus grande ville, tandis que les secours recherchaient 6 marins portés disparus après le naufrage de leur cargo dans la tempête. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
La Tanzanie a mis en service jeudi un nouveau train moderne entre la principale ville Dar es Salaam et la capitale Dodoma. Longue de 440 km à écartement international et électrifié, la liaison entre les deux villes est un maillon essentiel d'un projet plus vaste visant à créer plus de 2500 km de lignes nouvelles entre Dar es Salaam, le nord et l'ouest du pays. Une première phase de 200 km a déjà été ouverte en juin jusqu'à la ville de Morogoro. Si la voie ferrée a été construite par une entreprise turque, les trains avec Wi-Fi et air conditionné ont été fournis par le conglomérat sud-coréen Hyundai Rotem. Le ministère sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération et l'ambassade du Japon ont signé des accords de dons d'environ 31 millions de dollars pour renforcer plusieurs secteurs cruciaux au Sénégal, dont l'agriculture, la sécurité, la santé et la prise en charge du capital humain. Ce don japonais contribuera spécifiquement à améliorer les infrastructures, renforcer les capacités du système de santé et augmenter la productivité et la durabilité du secteur agricole. Pour terminer, l'économie américaine a marqué un sursaut inattendu ces derniers mois. Portée par la consommation et l'investissement, la progression du PIB des États-Unis s'est de nouveau accélérée entre avril et juin. Il a atteint 2,8% en rythme annualisé contre 1,4% au premier trimestre, selon le département du commerce.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le point pour commencer sur le tournoi de football homme des Jeux Olympiques de Paris à l'issue des matchs joués hier mercredi.
L'équipe de France olympique, amenée par le capitaine Alexandre Lacazette, s'est imposée 3-0 mercredi face aux États-Unis. Après la victoire du Maroc face à l'Argentine de 1 dans une grande confusion lors de la première journée du tournoi olympique de football. Dans leur groupe, l'Irak a gagné contre l'Ukraine de 1 à Lyon. La France est en tête du groupe A aux côtés de la Nouvelle-Zélande qui l'a emporté plus tôt dans la journée à Nice face à la Guinée dans un stade quasi vide de 1. L'Espagne a pris la tête du groupe C après sa victoire de 2-1 contre l'Ouzbékistan, alors que l'Égypte et la République dominicaine ont fait match nul, 0-0. Dans le groupe D, le Japon s'est imposé facilement contre le Paraguay 5-0 et se retrouve en tête grâce au match nul entre le Mali et Israël 1-0. La première journée a aussi été marquée par des retards sur les ouvertures de portes, notamment au Parc des Princes, pour la rencontre Espagne-Ouzbékistan.
Et on a assisté à un fait de match inhabituel.
Maroc-Argentine, le match de football masculin qui a ouvert les compétitions des Jeux mercredi à Saint-Étienne, a été interrompu 2 heures après un envahissement du terrain par quelques supporters mécontents. Une durée inhabituelle que ne comprennent pas les Marocains, joueurs comme supporters, nombreux en tribune. Paris 2024 et la FIFA estiment que le nécessaire a été fait pour que la rencontre aille à son terme en toute sécurité. Paris 2024 travaille avec les parties prenantes concernées pour comprendre les causes et identifier les actions appropriées.
La France obtient les Jeux olympiques d'hiver 2030 sous condition du vote d'une garantie d'ici mars.
Les Alpes françaises ont obtenu mercredi les JO d'hiver pour 2030, mais sous condition d'avoir la garantie financière votée par le Parlement français d'ici mars prochain. Une garantie promise en personne par Emmanuel Macron devant les membres du Comité international olympique réunis à Paris. À quelques heures de l'ouverture des JO de Paris, la France obtient donc une deuxième édition olympique en 6 ans. Mais le CIO n'a pas entièrement donné son feu vert. Son président Thomas Bach avait prévenu depuis plusieurs semaines qu'il lui fallait la garantie financière de l'État, c'est-à-dire l'engagement que celui-ci épongera les dettes en cas de problème. Et c'est tout pour les sports.
Page des sports VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, dans la région de Bandiagara, l'insécurité croissante menace la campagne agricole. Malgré des attaques armées, des initiatives sécuritaires permettent à certains agriculteurs de cultiver, nourrissant l'espoir d'un retour à la paix et à la stabilité. Le reportage à Koro de Tidiani Ouedraogo.
Non loin de la grande mare du village, les femmes pilent le mil et chantent la bravoure des agriculteurs. Une tradition du village bien respectée par Korka et ses amis.
Nous sommes très contents de piler le mil devant la grande mare, bien remplie d'eau de pluie. Nous allons préparer le taux pour donner aux cultivateurs qui sont au champ.
Malgré un léger retard constaté sur le démarrage de la campagne agricole, les agriculteurs de la région retrouvent les sourires après la grande pluie de la nuit dernière. Ici, l'agriculture est la principale activité économique.
Après la grande pluie d'hier soir, les mares sont remplies d'eau. Je suis en train de cultiver de l'arachide. Je peux avoir jusqu'à 40 sacs par hectare. Ensuite, je revends une partie des récoltes pour faire les dépenses de ma famille.
Depuis le début de la crise sécuritaire dans le centre du Mali, les attaques des groupes armés s'intensifient pendant l'hivernage. Plusieurs villages de la région n'ont pas accès à leurs champs à cause des menaces. Comme Amadou, beaucoup ont été victimes d'attaques dans leurs champs de culture.
Je suis victime d'attaques des groupes armés. Après l'attaque de notre village, les assaillants sont repartis avec nos troupeaux. Par manque de moyens, je laboure mon champ avec un âne et un bœuf, comme tu peux le constater toi-même.
Selon des témoignages que nous avons recueillis auprès des populations, l'armée se déploie dans plusieurs localités de la région afin de sécuriser les cultivateurs. Une situation qui permet à Marthe de se rendre dans son champ en toute quiétude.
C'était difficile de se rendre au champ, mais les choses se sont améliorées ici. Cependant, il y a encore des villages où les cultivateurs ne peuvent pas se rendre dans leurs champs à cause des menaces.
Les populations fondent l'espoir sur le retour définitif de la paix et le vivre ensemble, car, disent-elles, l'agriculture et l'élevage sont les principales activités économiques de la région. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, pays sahélien, les producteurs ruraux abandonnent progressivement les cultures vivrières au profit des cultures de rente dans toutes les zones agricoles. André Kodbajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point sur la situation dans la province du Mundoul, où ces producteurs cultivent désormais plusieurs hectares de sésame, les délaissant des cultures vivrières comme le coton, autrefois prédominantes.
En se tournant vers la culture du sésame, qui dans un passé récent a été considérée comme une culture de loisirs, ces producteurs ruraux veulent régler deux problèmes. 1. Avoir rapidement beaucoup d'argent. 2. Éviter l'épineuse question des conflits éleveurs-agriculteurs, car, disent-ils, les fans du sésame ne nourrissent pas le bœuf comme pour la céréale.
Quand on lave l'autre, les céréales, l'autre là, il y a beaucoup d'animaux qui ont fait l'autre à dévaster la culture de céréales. C'est pour cela qu'on a laissé tout le culture de céréales et puis on vient pour la culture de sésame.
La production de coton là pose énormément de problèmes. Le sésame, on a soit de l'argent aussitôt. Culture vivrière, il faut avoir des sacs avant d'avoir, je sais pas, une semaine. Et que le sac pour ses besoins. Par contre, le sésame, si c'est un sac, tu peux avoir deux sacs de sorgho.
Pour amener les producteurs ruraux à prendre conscience de cette situation, le ministère en charge de l'agriculture, à travers sa délégation de la province du Mandoul, a mis à la disposition de 98 producteurs ruraux 550 kg de sésame amélioré de céréales pour une superficie de 56 hectares. Le gouverneur de la province du Mandoul, Mohamed Zen Aladji Yaya, qualifie cette situation d'une dérive qui fait planer déjà la famine sur cette province qui est censée alimenter tout le Tchad. Il invite les producteurs à une prise de conscience.
Dans notre culture d'agriculteur, Il est inconcevable que le chef de famille passe toute la saison pluvieuse dans son champ et n'ait pas mettre quelque chose dans son grenier, quelle que soit la quantité. Le Burkina Faso, qui est le plus grand producteur de coton en Afrique, fait obligation à chaque cotonculteur de faire au minimum un demi-hectare de culture vrière. C'est pourquoi je lance un appel en direction de tous les agriculteurs de prendre conscience et pendant qu'il est encore possible de ne pas faire entrer la famine dans les villages et les foyers.
Le délégué provincial de la production et de l'industrialisation agricole de la province du Mandoula, Alata Geralta, présente les statistiques des cultures de rente durant la campagne agricole en cours comparativement aux années précédentes.
L'année 2022, sur l'ensemble de la province, nous avons recensé 97 025 hectares. En 2023, nous avons recensé 110 063 hectares. Donc, il y a eu une augmentation entre l'année 2022 et 2023 de presque 14%. Maintenant, cette année, pour le seul mois de juin, nous avons constaté que le sésame a été semé à plus de 33% de toute la superficie semée. Alors que ce n'est pas encore le mois de semis de sésame.
Alata Geralta informe au micro de VOA Afrique que l'abandon des cultures vivrières a également des conséquences sur le bétail.
Cette année, nous avons constaté qu'au mois de mai et juin, beaucoup des animaux sont morts parce qu'il n'y a pas de pâturage. Dans les années passées, les tiges de céréales servent aussi de pâturage. Les gens font des stocks pour nourrir les animaux en période de crise. Mais cette année, il n'y en avait pas carrément. Les fans de sésame ne nourrissent pas les animaux. Donc il y a à la fois les conséquences pour les hommes et il y a aussi les conséquences pour les animaux.
C'est dans cette situation de risque de famine que l'INADES Formation Tchad a renforcé dans le cadre du projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest étalé à l'espace du communauté permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS, les capacités de plus de 30 représentants des producteurs ruraux des zones agricoles du pays disposant de magasins et banques de céréales sur la gestion des stocks de proximité. André Kodoma Djingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En RDC, le centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma est le seul centre spécialisé du Nord Kivu, malgré les besoins considérables en raison de la violence armée provoquant le déplacement de milliers de personnes. Il reçoit 80 patients par semaine en externe, dont une majorité de jeunes, et dispose de 50 places en internat. Nathalie Barge a joint l'administrateur du centre, Anissé Mourouani, qui dresse un plan de la demande en soins psychologiques.
Ce sont souvent des gens qui viennent des camps de déplacés, d'autres qui viennent des environs des camps. Vous savez que la guerre n'affecte pas seulement les déplacés, mais ça affecte aussi les familles qui accueillent les déplacés, qui sont en train d'assister à des situations très alarmantes et développent des problèmes de santé mentale. Avec la guerre que nous vivons, mais nous fournissons assez d'efforts pour multiplier les séances de sensibilisation au niveau des radios. Nous travaillons avec les relais communautaires que nous formons au niveau des aires de santé proches de Goma, proches des camps de placés, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'accéder aux soins. Et ceux qui pouvaient venir pour bénéficier des soins, bon, ils sont aussi limités par rapport aux moyens. Comme il n'y a pas un soutien au niveau des décideurs pour qu'on puisse prendre mieux en charge la santé mentale des populations, ceux qui viennent, ce sont ceux-là qui ont eu la chance d'être accompagnés. Mais les autres traînent là où ils sont, ils n'ont personne pour les soutenir et les amener à l'hôpital. Et c'est vraiment un problème dans la région. Et les malades sont marginalisés effectivement parce que la population n'a pas encore vraiment compris la santé mentale ou la maladie mentale.
Étant donné la situation, quels sont les besoins les plus pressants de votre centre de santé mentale ?
C'est le soutien à la prise en charge de personnes malades mentales. Pour que ces malades puissent quand même accéder facilement aux soins chez nous, une prise en charge qui est vraiment holistique. Il y a aussi la question de la sensibilisation. Ça demande vraiment que ça soit soutenu pour que ça se fasse d'une manière correcte. Mais aussi, il y a une difficulté par rapport à l'approvisionnement psychotrope dans nos régions. C'est devenu un problème. Ce sont des médicaments qui viennent de l'Europe, mais pour en avoir ici, ce n'est pas toujours facile. Et quand ça arrive, c'est à un prix élevé. Et il y a aussi un autre défi, c'est par rapport à la formation continue de notre personnel. Ce sont des formations qui demandent aussi des moyens. Nous avons beaucoup vraiment de besoins, mais le plus essentiel, je dirais que ce sont ces moyens là qui peuvent nous aider à prendre en charge le cas, le vulnérable, et d'assurer ou d'organiser des sensibilisations d'une manière très organisée pour que la population puisse avoir une information claire sur la maladie mentale, les renforcements des capacités de notre personnel, mais aussi cet appui à avoir des psychotropes pour qu'on prenne en charge facilement nos malades, quelle que soit leur précarité, parce que tout le monde a droit aux soins.
Anissé Mourouani est l'administrateur du centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma, dans le nord Kivu, en République démocratique du Congo.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Direction le Nigeria, d'après l'Agence internationale de l'énergie, environ 600 millions de personnes en Afrique, soit 43% de la population totale du continent, n'ont pas accès à l'électricité. Au Nigeria, le plus grand pays d'Afrique, bien que l'électricité soit produite depuis plus d'un siècle, le développement des infrastructures reste lent et la production et la distribution d'électricité inadéquate. On dit souvent que la nécessité est la mère de l'invention. Voici l'histoire d'un Nigérian qui incarne bien cette devise. Les détails avec Timothy Obuzu. Le récit est de Ginny Niwa.
Martin Davo, 28 ans, gère son salon de coiffure à Abuja depuis près de 4 ans. Mais comme des centaines d'autres entreprises sur ce marché, son magasin n'est pas connecté au réseau électrique et l'alternative est devenue trop chère depuis que le gouvernement a supprimé les subventions sur l'essence l'année dernière.
Il n'y a pas de lumière ici et même l'achat de carburant pour le service des clients est devenu trop cher. Comment peut-on acheter un litre d'essence pour 700 naira et faire payer aux clients 200 ou 300 pour une coupe de cheveux?
Martin Davo s'appuie sur des tondeuses alimentées par batterie pour s'en sortir, mais l'entreprise est toujours en difficulté. Depuis des décennies, le Nigeria est confronté à la faiblesse de la production et de la distribution d'électricité en raison d'incertitudes politiques et réglementaires, de l'approvisionnement en gaz et d'une infrastructure inadéquate. Les autorités affirment que cette situation empêche quelques 100 millions de citoyens de vivre décemment. Mais ces défis sont à l'origine d'innovations telles que le système de générateur d'énergie verte de Regino Bamji, équipé d'un processeur de batterie auto-rechargeable. Regino pense que son innovation pourrait contribuer à résoudre les problèmes d'électricité de Martin Davo et de beaucoup d'autres personnes dans la même situation.
Ce qu'il fait, c'est qu'il prend un peu d'énergie, de l'énergie principale, et l'amène à la batterie externe. Elle se charge et stocke de l'énergie pour vous. Lorsque les batteries s'épuisent et qu'il n'y a pas d'énergie solaire, de réseau électrique, de NEPA ou de vent pour les recharger, ce système est très utile. Il recharge immédiatement les batteries.
Regino Bamiji, 61 ans, est un innovateur depuis plus de 20 ans. Il alimente sa maison avec sa technologie et a récemment conclu un partenariat avec une société italienne. Cette dernière l'aide à construire un nouveau modèle de son invention et partagera les bénéfices lors de sa commercialisation sur le marché. Regino a également mis au point une voiture électrique en utilisant un principe similaire.
En Italie, ils ont reproduit le même modèle que celui que nous avons ici, mais il est plus beau que le nôtre parce qu'il s'agit d'une entreprise de fabrication avec laquelle nous allons conclure un accord. En fait, j'ai souhaité que ce soit en Afrique ou au Nigeria, mais je n'ai pas d'autre choix parce que les gens ne veulent pas croire en quelque chose qui vient de leur pays.
En février de cette année, le ministère nigérian de l'innovation s'est engagé à soutenir les inventions locales pour stimuler la croissance économique et résoudre les problèmes. Regino Bamiji explique qu'il a présenté son invention à des fonctionnaires à plusieurs reprises, mais que ceux-ci n'ont manifesté aucun intérêt ni aucun soutien. Selon lui, si les autorités ne tiennent pas leurs promesses, des millions de Nigérians n'auront pas accès à une électricité régulière et abordable.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.